Bonsoir, voici les titres de ce forum du samedi 19 octobre. Stopper la migration illégale, c'est l'objectif affiché du PLR. Réunis en assemblée, ses délégués persistent et signent pour serrer la vis de l'asile, quitte à flirter avec l'UDC. On posera la question à la vice-présidente du PLR. Baisser les impôts des jeunes voix et des jeunes voises, c'est ce que propose le canton, soutenu par la droite qui veut redonner du pouvoir d'achat aux contribuables. Mais à gauche, on dénonce un cadeau empoisonné. La population vote le 24 novembre et nous, on en débat ce soir. Au menu de ce forum également, la place des actrices de 50 ans et plus au cinéma. Les festivals les ont récemment mis à l'honneur, mais dans le milieu, les comédiennes d'un certain âge sont-elles plus visibles? La réalisatrice Ursula Meyer est notre invitée. Imaginez maintenant que vous vous promenez dans votre ville ou village, mais sans y mettre les pieds. L'entreprise Usufly réalise des maquettes 3D numériques plus vraies que vraies. Un outil de précision bien utile pour les communes. On vous dit pourquoi en fin d'émission. Forum, c'est jusqu'à 19h sur la première et sur l'app Play RTS. Bienvenue.
Forum, Coraline Pochard.
L'asile et la politique migratoire en Suisse, le thème a largement occupé l'Assemblée des délégués du PLR. Aujourd'hui, ils ont même adopté un papier de position pour lutter contre la migration illégale. Nicole Della Pietra, vous étiez à Tenero, au Tessin, où avait lieu cette Assemblée, et le ton était plutôt dur.
Oui, la migration, la question brûlante du moment, et autant dire que le Parti libéral radical s'en est emparé à bras-le-corps. La migration clandestine est une question de sécurité pour la population suisse et préoccupe les gens. Il s'agit d'être hart, aber fair, dur mais juste, un slogan qui a été répété plusieurs fois. Le problème des migrants criminels qui n'ont pas droit à l'asile exige un renvoi immédiat et efficace, estime le parti. Le président Thierry Burkhardt a même clamé qu'il en va de la sauvegarde de l'état de droit. Le PLR souhaiterait d'ailleurs couper l'aide au développement aux pays qui n'acceptent pas de reprendre leurs ressortissants déboutés et toutes les incitations à rester en Suisse doivent être supprimées.
Il a aussi été question de migration médicale, Nicole.
Oui, la migration sanitaire est également une préoccupation du parti. La conseillère d'État vaudoise Isabelle Moret est intervenue pour donner un exemple concret, celui d'une dizaine de ressortissants géorgiens actuellement hospitalisés dans son canton en attente d'une greffe, des interventions lourdes et coûteuses avec des listes d'attente très longues. Ils prennent la place de patients suisses qui ont besoin d'une telle opération, a dénoncé la ministre.
Et les libéraux radicaux vont même plus loin. Ils veulent aussi serrer la vis aux réfugiés reconnus.
Un serrage de vis financier qui concerne les réfugiés reconnus, mais qui demande que seuls ceux qui sont à même de subvenir aux besoins de leurs proches devraient bénéficier du regroupement familial. Et plus généralement, le statut de l'asile des réfugiés reconnus doit être réexaminé régulièrement, dit le PLR. Le sénateur lucernois Damien Muller a néanmoins souligné que la tradition humanitaire reste un élément central pour la Suisse. Une personne persécutée doit recevoir notre protection, a-t-il dit. Mais les migrants économiques n'ont pas leur place ici. In fine, Coraline, on précise encore que le PLR se défend de copier un certain parti plus à droite, comprenez l'UDC, mais sans le citer.
Nicole Della Pietra, en direct du Tessin. Merci et bonsoir à vous, Florence Betschart-Narbel.
Bonsoir.
Vous aussi, en direct du Tessin, puisque vous y étiez à cette assemblée, vice-présidente du PLR suisse. Le papier de position du PLR est clair, hein, le parti veut s'attaquer à l'immigration illégale. C'est vraiment une préoccupation en Suisse?
Oui, je pense que c'est une préoccupation. En tout cas, c'est une attente de la population que les choses s'améliorent. Et c'est vrai que quand on voit qu'il y a un certain nombre de réfugiés qui viennent de pays dont on ne peut pas obtenir l'asile et qui arrivent quand même en Suisse, eh bien, je pense qu'on doit mettre des mesures qui font que ces gens se disent plus que la Suisse est un pays attractif et ne viennent plus en Suisse pour demander l'asile, qu'ils vont de toute façon pas avoir reconnu.
Et vous parlez aussi d'un serrage de vis, c'était les mots utilisés par Nicole Della Pietra, concernant les réfugiés qui sont reconnus. Là aussi, il faut faire mieux.
Il faut faire mieux parce que je pense que il faut éviter que les gens se fassent des illusions sur ce qui les attend en Suisse. Et puis c'est aujourd'hui un système qui est quand même très lourd, qui est très lourd aussi financièrement à la charge des cantons. La conseillère d'État Isabelle Moret a parlé de 400 millions qui avaient été payés pour l'asile l'année passée dans le canton de Vaud. Je pense que c'est des montants qui sont extrêmement importants et qui sont de plus en plus difficiles à supporter si on n'a pas une politique avec une vision actions où on essaye de remettre notamment les gens sur le marché du travail. Et pour certains migrants, c'est extrêmement difficile de pouvoir les intégrer dans le marché du travail.
Mais pourtant, Florence Béchard-Narbel, Béatiens, donc le conseiller fédéral en charge de l'asile, s'est entretenu aujourd'hui dans la presse et lui estime que la Suisse fait même mieux que ses voisins en la matière, que les demandes d'asile sont en baisse, que les retours augmentent, que l'introduction d'une procédure en 24 heures fonctionne bien. Finalement, il a tout juste.
C'est pas les échos qu'on a eus, notamment des conseillers d'État en charge de la sécurité et de l'asile, parce que le groupe de travail qui a travaillé là-dessus au sein du PLR avait plusieurs conseillers d'État en charge de l'asile et de la sécurité et démontrait qu'il y avait quand même tout un certain nombre de problématiques et que le système fonctionne pas si bien que le conseiller fédéral veut bien le dire. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de migrants qui sont dont l'asile est refusé et qui restent en Suisse sans possibilité de les renvoyer parce qu'il n'y a par exemple pas d'accord de réadmission avec ces pays-là.
Pour augmenter les renvois, vous préconisez de couper dans les subventions de cantons qui sont jugés trop laxistes. C'est un peu une menace, ça?
Alors c'est une menace, oui, évidemment que c'est une menace, mais je pense que les cantons sont conscients de ces questions et de ces problématiques. Je pense qu'il y a des accords et des procédures qui doivent être simplifiées avec la Confédération, notamment sur la possibilité de renvoi. Isabelle Morin nous parlait aussi, par exemple, des vols depuis Genève qui sont pas forcément possibles. Donc il y a tout un certain nombre de mesures pratiques, et c'est ça que le PLR veut proposer, c'est des solutions concrètes pour que on puisse exécuter ces renvois pour les personnes qui n'ont pas le droit à l'asile en Suisse et qui ont été refusées à l'asile.
L'asile, mettre au centre l'asile de votre politique, Florence Béchard-Narbel, est-ce que ce n'est pas faire un peu comme l'UDC? L'ancien conseiller d'État vaudois PLR, Claude Ruet, craint même, je le cite, que le parti devienne le caniche de l'UDC.
Bon, notre assemblée des délégués aujourd'hui a voté à 228 voix pour ce papier de position contre 4 noms. Donc je crois que la position de la base du PLR, elle est quand même très suivie. La position, je veux dire, de la direction par la base est très suivie. Et puis Claude Ruet aurait eu l'occasion de venir à notre Assemblée Générale pour s'exprimer. Il a préféré le faire par la voix de la presse. Je pense que c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a des discussions à avoir et surtout il y a une attente de la population, une attente sur un sentiment d'insécurité face à une certaine immigration, face à une certaine criminalité. Et je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face, il faut aussi faire face à la réalité des choses. Et aujourd'hui, on est quand même dans une situation, en tout cas on le sent dans certaines villes, romandes, une situation difficile qui est due à cette immigration illégale. Et c'est vraiment là où on veut faire une différence avec l'UDC, c'est que nous, on se focalise sur l'immigration illégale et pas sur toute immigration comme le fait l'UDC.
Mais il y a quand même eu des mots forts aujourd'hui à l'Assemblée, hein, notamment vis-à-vis de certains groupes de migrants du Maghreb, par exemple. Des voix romandes, hein, donc également comme Claude Ruet qui est roman, ont averti contre un risque de stigmatisation. Vous partagez ça? Ça va un peu loin, les mots?
Alors, dans le papier de position, on a gardé l'exemple des pays du Maghreb, et je crois qu'il y a un exemple qui a été donné par le conseiller aux États Damien Muller, où sur des cambriolages dans les voitures, eh bien, dans le canton d'Argovie, où on a reconnu et les personnes arrêtées étaient à plus de 80% des Maghrébins.
Donc vous stigmatisez pas en faisant ça?
Il faut pas se voiler la face sur une certaine criminalité. Je pense que évidemment qu'il y a toute une partie de population qui est tout à fait qui se tient très bien, mais il y a aussi une partie de la criminalité qui vient d'origine de ces pays-là. Et je pense qu'il faut pas non plus se voiler la face. Je pense qu'il y a quand même aujourd'hui une importation de la criminalité. Malheureusement, elle vient souvent de ces pays-là.
Florence Béchard-Narbel, restez avec nous puisque le sujet qui suit est également en lien avec la politique d'asile en Suisse. Le journal Arc Info nous l'apprenait ce matin, le secrétariat d'État aux migrations va réduire son personnel d'encadrement pour les requérants d'asile mineurs non accompagnés. 120 équivalents plein temps vont être supprimés et certains sites pourraient fermer en cause la baisse des demandes. Bonsoir Sophie Guignard.
Bonsoir.
Vous êtes la secrétaire politique de Solidarité sans frontières. Moins de demandes, moins de travail d'encadrement. C'est normal que le SEM réduise ses effectifs, non?
Ben, c'est pas normal de supprimer des postes dans un système d'encadrement qui est déjà à l'heure actuelle largement insuffisant, mais ça répond finalement à la logique financière d'ORS, qui est, je le rappelle, l'entreprise privée à but lucratif mandatée par le SEM pour l'accueil. Si c'est ORS qui obtient beaucoup de mandats en Suisse, au niveau cantonal comme fédéral, mais aussi ailleurs en Europe, c'est parce qu'ils sont clairement moins chers que la concurrence, et s'ils sont clairement moins chers, c'est parce qu'ils réduisent au maximum les coûts du personnel.
Mais ces postes supprimés sont essentiellement des postes d'encadrement, hein, c'est ce que dit le secrétariat d'État aux migrations. Les pédagogues, les éducateurs sociaux par exemple, qui accompagnent ces personnes, eux vont rester en place. La coupe ne va pas démanteler le système d'accueil non plus.
Non, mais on risque quand même de se retrouver dans une situation comme celle de la deuxième moitié de 2022, où le retour à la normale des arrivées suite aux deux années de pandémie n'avait pas du tout été anticipé. Le résultat, c'est que les centres étaient débordés, le personnel était à bout, et puis il y avait des personnes requérantes d'asile qui avaient dû être attribuées au canton de manière prématurée. Cela alors que une des promesses de la révision de la loi sur l'asile, c'était d'avoir un système qui est résistant aux variations d'effectifs. Et c'est pas en supprimant autant de postes qu'on va pouvoir garantir cette résistance. Et en plus, je rappelle que ces derniers temps, on a beaucoup parlé des problèmes de cohabitation et de sécurité aux alentours autour des centres, on l'a vu à Boudry mais aussi à Guifard, c'est que c'est des problèmes qui peuvent aussi se régler par un meilleur encadrement. Je pense par exemple à des intervenants aux arrêts de bus, etc. Et du coup, je me demande quel est le message du SEM par rapport à la population qui s'inquiète quand il permet des coupes justement dans ce budget-là.
Qui c'est qui va s'occuper de cela, de ce manque de sécurité parfois si ces postes d'encadrement n'existent plus, à votre avis?
Ben, c'est pas clair, et je suis pas sûre que le SEM ait une stratégie. Et puis, ce qui risque de se passer, c'est comme d'habitude, c'est qu'ils se mettent à réengager à tour de bras les personnes qui veulent bien le faire. Mais c'est pas une stratégie sur le long terme, parce que le SEM reconnaît lui-même que c'est compliqué d'engager du personnel pour travailler dans les centres. Du coup, il faut peut-être se poser la question des conditions de travail pour pouvoir faire du bon travail. Les personnes, elles ont besoin de stabilité. Il y a besoin d'une formation. Pourquoi licencier des personnes qui sont déjà formés, qui ont déjà l'expérience, pour quelques mois plus tard réengager des personnes qui du coup n'auront pas forcément cette expérience ou cette formation-là.
Sophie Guignard, restez avec nous. Florence Betschart-Narbel vous écoute, vice-présidente du PLR suisse. Ces suppressions de postes, Florence Betschart-Narbel, sont la conséquence d'une baisse de demande. Sophie Guignard nous dit attention à ne pas démanteler un système qui doit être pérenne pour que l'accueil soit correct. Pour vous, ces suppressions de postes, ça vous rassure parce qu'il y a moins de demandes, ou au contraire, c'est un risque, notamment pour la sécurité?
Bon, c'est surtout, moi, ce qui me... J'ai l'impression qu'on mélange un peu tout, parce qu'on parle surtout des mineurs non accompagnés, où c'est là que les possibilités d'encadrement seront réduites. Et je pense que si le nombre de requérants mineurs non accompagnés baisse drastiquement, ben, il y a une justification, en fait, à ce que on est aujourd'hui à moins d'encadrants. Et je pense que c'est juste de garder les pédagogues et les éducateurs, mais je pense que l'encadrement de base, s'il y a beaucoup moins de requérants mineurs non accompagnés, et bien à ce moment-là, on peut effectivement baisser
quitte à réengager lorsqu'il y aura plus de migrants potentiellement.
C'est un domaine où on doit être agile, je pense, parce qu'on peut pas, on fait des prévisions sur les demandeurs d'asile. On voit que parfois elles sont plus hautes que prévues, parfois elles sont plus basses que prévues. Mais je pense que c'est un domaine où on doit faire preuve d'agilité. On peut pas garder pendant des mois des personnes qui seront sous occupées.
Sophie Guignard, une brève réaction à ce que nous dit Florence Betschart-Narbel. L'agilité, c'est ça le mot?
Ben, je pense pas que par rapport à la question des mineurs non accompagnés, on peut se permettre d'être agile. Je pense plutôt qu'on se doit d'être fiable et de respecter les droits de l'enfant. Le rapport 2024 de la Commission nationale de prévention de la torture est très clair à ce sujet. Il y a des manquements très graves par rapport aux droits de l'enfant. Il y a par exemple le SEM qui a décrété que certains mineurs non accompagnés étaient autonomes. Tout ça pour éviter de leur garantir l'encadrement socio-éducatif auquel ils ont droit par la loi. La CNPT rappelle encore qu'il y a des enfants victimes de traite des êtres humains ou de violences physiques, psychiques ou sexualisées qui n'avaient pas été détectées comme victimes. Il y a aussi eu des cas de violence sur ces enfants. Donc
économiser justement là sur l'encadrement de ces personnes-là en faisant un pari sur l'avenir qu'il en viendrait moins plus tard, c'est à la limite de la maltraitance et c'est très dangereux.
Sophie Guignard, secrétaire politique de Solidarité sans frontières, Florence Betschart-Narbel, vice-présidente du PLR Suisse. Merci à toutes les deux d'être venues ce soir dans Forum. Une très bonne soirée.
Merci pareillement.
Le PLR, on va continuer d'en parler puisque le parti remet justement son siège en jeu en Valais. Le conseiller d'État Frédéric Favre a annoncé ne pas se représenter aux élections cantonales l'année prochaine. Idem pour son collègue du centre Roberto Schmitt. Deux hommes quitteront donc le navire, mais seront-ils remplacés par des femmes? Eh bien la question se pose en Valais. Bonsoir Annick Claire-Béraud.
Bonsoir.
Vous faites partie du comité de solidarité Femmes Valais, association qui s'engage notamment pour la présence des femmes en politique. Le gouvernement valaisan actuellement, il est 100% masculin. Avec ces deux départs surprises, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des femmes se profilent?
Alors, on l'espère fortement. C'est une belle opportunité d'élire deux femmes en Valais et pour rétablir un équilibre en fait qui devrait être la norme.
Mais pour que des femmes aient toutes leurs chances, il faut qu'elles soient soutenues par leur parti. Le centre, le PLR, ils ont une responsabilité là de présenter des femmes pour les cantonales qui arrivent.
Oui, alors la responsabilité leur incombe clairement. C'est de leur volonté et de leur ressort d'aller chercher des femmes, de mettre des femmes sur les listes, d'ouvrir le jeu, enfin, afin de que l'électorat valaisan ait un vrai choix.
Vous qui êtes à Solidarité Femmes Valais, est-ce que vous estimez que le centre et le PLR ont la volonté d'ouvrir le jeu?
Alors, j'espère qu'ils l'ont, ils le feront. Je pense qu'ils le feront. Ils ont des compétences dans leur parti respectif, des compétences féminines dans leur parti respectif. Il n'y a qu'à voir les derniers résultats des élections communales qui se sont déroulées il y a une semaine. Il y a eu des femmes PLR, il y a eu des femmes du centre qui ont été élues dans les exécutifs. Donc ces compétences féminines existent clairement au sein de ces deux partis.
Ça veut dire que vous avez des noms en tête, Annick Claire-Béraud?
Oui, il y a des noms qui circulent, mais je pense que je vais pas donner des noms ici pour pas mettre des personnes mal à l'aise ou pas peut-être donner l'impression que Solidarité Femmes dicte le jeu. Les partis prennent leurs responsabilités. Vous avez qu'à voir les listes justement des femmes qui occupent des sièges et des positions importantes aussi bien au Grand Conseil que dans les exécutifs des grandes villes. Ces compétences existent. C'est juste les instances politiques et les instances de ces partis qui doivent montrer et qui le feront qu'ils sont en fait aussi progressiste qu'il est ouvert, qu'il le déclare.
La relève existe. Mais ce qui est particulier, Annick Claire-Béraud, c'est qu'avec la constitution actuelle, qui n'a pas été modifiée, seul un ministre par district est autorisé à siéger. Si on prend Martigny, par exemple, le district de Christophe Darbelay, eh bien, cette règle empêche, quelque part, à des profils potentiellement féminins de se mettre en avant.
Oui, bien sûr que c'est une règle un peu obsolète, on va dire ça comme ça, et qui est un frein en fait à l'émergence de nouvelles candidatures, quelles qu'elles soient, aussi masculines que féminines, ou à la nouvelle génération de se profiler. Il y a aussi une règle dans la Constitution valaisanne qui dit que il doit y avoir un représentant par région, donc le Bas-Valais, le Valais central et le Haut-Valais. Mais ça n'empêche pas, je pense, les partis d'ouvrir le jeu et de ne pas, quelque part, décider de l'élection en amont au sein de clubs fermés.
Cela plaiderait, à votre avis, pour une règle tacite, par exemple, qui dirait qu'il faudrait au moins une femme au gouvernement?
Oui, mais même plus qu'une femme, deux femmes.
Au moins, j'ai dit au moins.
Oui, au moins. Oui, il y a une règle tacite qui existe comme ça dans le Haut-Valais, qui dit que le Haut-Valais a deux représentants. Mm-hmm. Mais quand on veut étendre cette liste, cette règle ou ce type de règle tacite, qui s'apparente quand même à une forme de quota aux femmes, on ramène toujours cette règle. En fait, non, les femmes, elles doivent être élues sur leurs compétences et non sur une forme de quota. Mais on voit que quand ça concerne, par exemple, le Haut-Valais, cette question de compétences ne se pose pas, en fait.
question de compétences, parfois à double tranchant ou avec deux poids, deux mesures. Annick Claire-Béraud, si je vous ai bien compris, du comité de solidarité Femmes Valais. Merci d'être venue réagir à ces deux départs à la tête du Valais, deux départs qui pourraient ouvrir la porte aux femmes. Bonne soirée à vous.
Oui, merci, bonne soirée.
Un pont du Mont Blanc plein à craquer. Plusieurs milliers de personnes dans les rues de Genève. Ils étaient 3000 selon la police, plus de 6000 selon les organisateurs, à dire leur effroi et leur solidarité quant à la situation au Liban et à Gaza. Un rassemblement qui signe le retour des manifestations d'envergure face à la guerre au Proche-Orient. Tania Saspinard, on vous retrouve en direct de Genève. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi cette manifestation et l'émotion était forte.
Oui, hein, plusieurs des personnes que j'ai rencontrées cet après-midi me disait qu'elle n'avait tout simplement plus les mots. Parmi les drapeaux palestiniens et libanais, on pouvait lire la colère, mais aussi et surtout la tristesse sur les visages. Un grand-père peu habitué des manifestations me disait ne pas pouvoir résister à la mobilisation face à un tel degré d'inhumanité. On doit se mobiliser face à tant d'atrocités, me confiait une jeune femme venue avec son père et son bébé en poussette, avant d'ajouter qu'elle ne se sentait vraiment pas représentée par les autorités suisses.
Et justement, quelles étaient les revendications?
Une action politique et un boycott économique, notamment. La position de la Suisse et celle du conseiller fédéral Ignacio Cassis sont jugées complices et totalement incompréhensibles. Les manifestants espèrent qu'une forte mobilisation de la société civile poussera le politique à réagir face aux violations du droit international. Une prise de parole a aussi eu lieu devant l'UBS pour dénoncer ses récents investissements dans la société Elbit Systems. C'est une entreprise d'armement israélienne.
Et cette fois, la situation de la presse à Gaza a aussi été abordée.
Oui, pour rebondir sur un appel qui a été lancé en Suisse cet été par des journalistes alémaniques qui dénoncent le danger pour les journalistes à Gaza. 140 sont morts depuis le 7 octobre 2023. La difficulté d'obtenir de l'information vérifiée a aussi été déplorée, puisqu'on rappelle qu'Israël interdit l'accès de la presse étrangère à la bande de Gaza. Le cortège qui a sillonné dans les rues calmes de Genève avec un rappel des organisateurs en début de manifestation pour ne laisser aucune place à une quelconque forme de discrimination ou de racisme, comme à des propos antisémites notamment.
Tania Saspinard, merci. Et on reste à Genève, puisque le 24 novembre prochain, la population devra dire si elle est en faveur d'une baisse d'impôts historique sur son revenu, du jamais vu en tout cas depuis 1998. Une réduction promise par le Conseil d'État dans son programme de législature, soutenue par l'ensemble de la droite. En chiffres, les contribuables genevois verront leur impôt sur le revenu baisser de 8,7% en moyenne. Mais la gauche s'y oppose. Pour elle, il s'agit d'un cadeau empoisonné. Alors on en débat ce soir dans Forum avec nos deux invités, Mariam Younous Ebner, présidente des Verts Genevois et maire de la ville de Ney, et Michael Andersen, député UDC au Grand Conseil Genevois. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Mariam Younous Ebner, vous êtes contre une baisse d'impôts. Vous répondez quoi aux Genevois et aux Genevoises qui peinent à boucler leur fin de mois? Pas facile.
Oui, alors je comprends tout à fait ces Genevoises et ces Genevois, et c'est pour eux que je plaide et que je demande à ce que on vote contre cette loi, parce que cette loi, elle rate clairement sa cible. La classe moyenne n'est pas suffisamment avantagée par cette baisse d'impôts. La proposition de la gauche, justement, de plafonner le cadeau fiscal à 5% pour une meilleure redistribution des impôts a été refusée par la droite. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que les députés reviennent avec une baisse d'impôts plus avantageuse pour la classe moyenne.
Plus ciblée aussi?
Voilà, exactement. Bien plus ciblée, parce que ce qu'on constate, c'est qu'en effet, la classe moyenne, il y a une baisse d'impôts, mais la baisse d'impôts, elle avantage beaucoup plus les plus riches qui en ont évidemment largement moins besoin.
Michael Andersen, pourquoi ne pas avoir mis une limite à cette baisse, comme le demandait la gauche, plutôt que d'arroser tout le monde?
Je pense que cette baisse est d'ores et déjà la bienvenue, parce que c'est la première fois, et ça fait longtemps à Genève, qu'on attendait cette baisse fiscale. C'est un moyen de rendre du pouvoir d'achat à la population. Et pour répondre sur ce qui vient d'être dit, c'est totalement erroné. La plus forte baisse d'impôts ce projet de loi, la plus forte baisse touche les revenus entre 50 et 76 000 francs. Donc, c'est un projet de loi qui vise clairement la classe moyenne. Je rappelle que c'est un projet de loi qui émane des députés de droite du Grand Conseil, sur lequel un amendement a été déposé par le Conseil d'État pour renforcer la baisse envers la classe moyenne. Donc, c'est un projet qui est totalement dans sa cible, avec une classe moyenne qui aura une baisse d'impôts supplémentaire. Cette classe moyenne qui ne peut bénéficier d'aucune prestation, qui ne peut bénéficier d'aucun logement social et qui aujourd'hui a du mal à boucler les fins de mois. Donc on est en plein dans la cible, on touche les revenus entre 50 et 76 000 francs. Je vous dis que c'est la baisse la plus élevée dans ce barème et dans ce projet de loi.
Mariam Younous Ebner, c'est vrai, ce projet de loi a misé hein, sur ces classes moyennes ou classes moyennes inférieures, une partie de votre base électorale quelque part. Vous leur tournez le dos?
Non, pas du tout. Au contraire. Alors, je suis d'accord avec M. Anderson que la baisse des impôts est tout à fait la bienvenue et je suis aussi pour qu'on améliore le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Maintenant, contrairement à la majorité de droite au Conseil d'État et au Grand Conseil, la gauche, elle est beaucoup plus ambitieuse que la droite par rapport à la baisse des impôts. Donc nous, ce que nous souhaitons et ce qu'on a imaginé, c'est que la baisse, elle soit encore plus importante pour la classe moyenne. Imaginez que finalement, si on plafonne pour les revenus élevés, eh bien, peut-être qu'on pourrait redistribuer, on pourrait encore mieux redistribuer cette baisse pour la classe moyenne. Je ne suis pas sûre qu'on va réussir à s'entendre avec Monsieur Anderson sur le sujet, mais j'avais aussi une autre préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, c'est magnifique, malgré l'ambiance anxiogène dont il vient d'être question dans votre émission, eh bien c'est vrai que économiquement, les choses vont plutôt bien pour la Suisse et notre canton en particulier. Mais moi, j'attire la attention, j'ai envie de dire un warning, une incertitude hein, peut avoir lieu. Et comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Donc, il faut aussi anticiper les incertitudes à l'avenir. Aujourd'hui, ça se passe bien, mais peut-être que dans le futur, ça se passera moins bien. Qu'est-ce que la droite propose? Est-ce qu'après, justement, on lève les impôts?
Michael Anderson, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que le canton a eu un excédent positif, hein, 3 années de suite, ça va plutôt bien. Mais ses pertes, les pertes de rentrée fiscale sont estimées à 326 millions de francs pour le canton. Imaginons que ça aille moins bien, qu'on retrouve par exemple les chiffres rouges pour le canton de Genève. On fait quoi? On augmente les impôts ou on coupe dans les prestations?
Ce qui est sûr, c'est que si on ne baisse pas les impôts aujourd'hui, quand on a un canton qui a fait 1,4 milliard de bénéfices l'année passée, plusieurs centaines de millions il y a 2 ans, je ne vois pas quand est-ce qu'on les baissera. Et puis rappelez-vous comme la gauche était vent debout quand on a voté la réforme fiscale des entreprises à Genève parce qu'on allait perdre des centaines de millions en baissant l'imposition des entreprises. Cette réforme a d'ores et déjà été absorbée et les recettes fiscales sont en très forte augmentation.
Donc pas de problème pour les prestations publiques. Michael Anderson.
Non, absolument pas. C'est important de rappeler que toutes les baisses fiscales qui ont eu lieu à Genève ont rapporté plus d'impôts à terme qu'il y en avait initialement. Et je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, cette réforme prévoit 326 millions de baisses qui sont d'ores et déjà prévues dans notre budget 2025, un budget qui est équilibré et qui prévoit quoi à côté de cela? Qui prévoit 600 nouveaux postes, qui prévoit de donner la nuitée aux fonctionnaires, qui prévoit 30 millions d'augmentation pour les subsides d'assurance maladie, qui prévoit 60 millions d'augmentation pour les prestations sociales, qui prévoit 10 millions pour la culture, qui prévoit 60 millions pour les transports publics genevois. Alors, il faut arrêter de dire qu'on coupe dans les prestations quand il y a une baisse d'impôts. Nous avons un budget aujourd'hui équilibré avec 326 millions de moins et des centaines de millions de prestations en plus pour la population.
Mariam Younous Ebner, là, on parle du canton, mais pour les communes, c'est 108 millions de baisse hein, fiscale que cette réforme pourrait annoncer. Pour vous, qui êtes la maire de la commune d'Aunay, qui compte 19 000 habitants, vous allez perdre combien?
Oui, justement, je vous remercie de revenir sur la prestation, parce que quand la droite dit qu'il n'y aura pas, les prestations ne vont pas être touchées, c'est faux. C'est complètement faux, parce que justement, en effet, en 98, les communes n'ont pas été concernées par cette baisse des impôts. L'association des communes genevoises a demandé à ne pas être inclus dans cette loi. Donc, dans l'association des communes genevoises, il y a des maires de droite et de gauche, et à l'unanimité, le comité de cette association a demandé à ne pas être partie prenante de cette loi et la majorité de droite a refusé cette demande. Et en effet, il va y avoir 108 millions en moins pour les communes et pour une ville comme Monet, on a une crèche que l'on va ouvrir fort heureusement, mais on souhaitait en ouvrir une autre dans un futur quartier. Par exemple, nous allons perdre 2,2 millions. Eh bien, 2,2 millions, ça correspond exactement au fonctionnement d'une crèche pour 60 enfants. Et si on prend un autre exemple, celui de la ville de Genève, qui va perdre quand même 50 millions par année, eh bien, cela correspond au fonctionnement du Grand Théâtre. Donc, on touche la culture. Est-ce que ce sur quoi j'aimerais vraiment insister par rapport aux communes, bien sûr qu'il va y avoir des coupures dans les prestations. On va devoir faire autrement. J'aimerais rappeler de quoi s'occupent les communes. On s'occupe des crèches, on s'occupe du parascolaire, c'est-à-dire qu'on s'occupe des enfants entre midi et 2 heures. On s'occupe des enfants après qu'ils aient fini l'école à 4 heures pour permettre aux parents de travailler. On s'occupe des aînés, on évite qu'ils rentrent dans l'isolement. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont arriver à la retraite et qui auront besoin d'une prestation de proximité que les communes offrent.
Et donc avec de l'argent, Marianne Younous-Ebner, vous êtes la maire Donnet, également présidente des Verts Genevois. Michael Andersen, député UDC au Grand Conseil Genevois, merci d'être venu débattre de cette votation sur une baisse d'impôts pour les Genevois et les Genevois. Ce sera le 24 novembre. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée, merci, au revoir.
Et on fait un détour par la route.
Infotrafic RTS.
Un véhicule roule actuellement à contresens sur l'autoroute A3 Zurich-Coire entre l'échangeur de Niederrhein et Wallenstadt. Quelle que soit votre direction, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Je répète, un véhicule roule actuellement à contresens sur l'autoroute A3 Zurich-Coire entre l'échangeur de Niederrhein et Wallenstadt. Quelle que soit votre direction, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. 18h31, forum, ça continue jusqu'à 19h. Dans un instant, on se promènera dans les rues virtuelles de Vevey ou de Nyon grâce à une technologie numérique ultra réaliste. Mais tout de suite, un nom qui fait beaucoup parler de lui, Martin Zellner. L'activiste d'extrême droite a été arrêté aujourd'hui en Suisse alors qu'il était interdit de territoire. L'Autrichien, connu pour ses positions radicales sur l'immigration et qui défend la théorie complotiste du grand remplacement, a été interpellé dans le canton de Thurgovie. Célia Berthelet, bonsoir.
Bonsoir.
Dites-nous, que s'est-il passé ?
Martin Zellner se trouvait à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne, à Kreuzlingen. Une vidéo le montrait dans la rue où il distribuait son livre lorsqu'il a été arrêté par la police turgovienne en plein direct. Sur la vidéo, on le voit d'abord protester. Il semble ne pas comprendre qu'il a franchi la frontière et qu'il se trouve sur le territoire suisse.
Et que venait-il faire en Suisse ?
Il était invité par le mouvement Junge Tat, un groupe de la mouvance néo-nazie qui a récemment fait la une des médias en raison d'actions homophobes. Martin Zellner aurait dû donner une conférence dans le canton de Zurich aujourd'hui et c'est dans ce cadre que FEDPOL a édicté une interdiction de territoire début octobre.
Célia Berthelet, restez avec nous. Nous devons annoncer une urgence route. On vous retrouve juste après.
Infotrafic RTS.
Pour vous dire qu'un véhicule roule toujours à contresens sur l'autoroute A3 Zurich-Coire entre l'échangeur de Niederrhein et Wallenstadt, quelle que soit votre direction, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Un véhicule roule actuellement à contresens sur l'autoroute A3 Zurich-Coire entre l'échangeur de Niederrhein et Wallenstadt. Célia Berthelet, on vous retrouve. On parlait justement de l'activiste d'extrême droite Martin Zellner qui a été arrêté aujourd'hui par les autorités suisses alors qu'il était interdit de territoire. Alors, pourquoi interdit de territoire ?
Eh bien, l'interdiction a été émise sur une durée limitée par FEDPOL en raison d'un risque de menace pour la sécurité intérieure. Il faut savoir que Martin Zellner était déjà venu en Suisse au mois de mars. Il devait participer à une autre manifestation de Junge Tat, événement finalement interdit par la police au vu du risque élevé de confrontation violente avec des manifestants. C'est à ce moment que les forces de l'ordre de Zurich ont demandé une interdiction de territoire pour sa venue de ce week-end. Martin Zellner ne peut également pas se rendre aux États-Unis. Et en Grande-Bretagne, une mesure similaire avait été levée en Allemagne, mais elle aurait visiblement été remise en vigueur à la suite d'une conférence illégale hier soir. C'est en tout cas ce que le principal concerné explique dans sa dernière vidéo postée cet après-midi.
Célia Berthelet, merci. Sion rencontre Servette ce soir. Ce n'était plus arrivé depuis un an et demi et la rencontre promet son lot d'émotions, de cris et de rivalités. On parle football, évidemment. Et c'est vous qui allez suivre le match de Super League qui oppose les deux équipes. Jérôme Jandin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sur place au stade de Genève, un stade qui va attirer la foule.
Oui, 15 000 spectateurs, hein, peut-être plus. C'est l'affluence qui est attendue ce soir pour ce qu'on appelle le derby du Rhône. C'est un classique du championnat de Suisse. Il alimente les livres d'histoire depuis plus de 60 ans. Dernier en date, c'était le derby de mai 2023. Il reste dans les mémoires pour son score, hein, 5-0 pour Servette, mais aussi pour son impact. Ce soir-là, le président Constantin avait limogé l'entraîneur Patrick Bétonnier à la mi-temps. Sur le moment, Sion avait vécu une humiliation qui s'est révélée salvatrice avec le recul parce qu'elle avait à provoquer une profonde remise en question. Depuis, le club valaisan s'est reconstruit sur des valeurs plus saines. Ce sont elles qui ont permis de remonter en Super League, de regagner du crédit, en s'inspirant d'ailleurs du succès récent de Servette FC, que Sion va donc retrouver ce soir pour un duel prometteur.
Voilà pour le contexte. Au niveau sportif maintenant, quel est l'enjeu ?
Alors ce n'est pas le même pour les deux équipes. Hein. Pour Servette, il s'agit de gagner pour rester dans le sommet du classement avec Lucerne, Zurich et Lugano. Quatuor qui est légèrement détaché et qui peut espérer jouer le titre national cette saison puisque Young Boys est toujours bon dernier. Et puis pour Sion, l'ambition consiste à renouer avec la victoire. Tout d'abord, ce soir, les Valaisans n'ont plus gagné depuis le 10 août contre Winterthur. À plus long terme, Sion cherchera à boucler la première phase de son championnat dans le top 6, ce qui lui permettrait d'assurer son maintien dès la fin avril et pourquoi pas de jouer une place en Coupe d'Europe.
Servette Sion, c'est à suivre dès 20h30 dans Sport Première. Merci Jérôme Jandin, vous y étiez et vous y serez. À 18h36, on guigne derrière les caméras des plus grands films et on fait le focus sur les actrices de 50 ans et plus. Ces derniers temps, les festivals de films tels que la Mostra de Venise ou le Festival de Zurich mettent en avant ces actrices, que ce soit Monica Bellucci, Tilda Swinton, Julianne Moore, Nicole Kidman, Kate Winston ou encore Pamela Anderson. Des figures de l'actualité cinématographique qui cassent l'image d'un univers où a longtemps dominé le mythe de l'éternelle jeunesse, spécialement pour les femmes. Alors, changement de cap au cinéma ou illusion ? Eh bien, on en parle avec vous, Ursula Meyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réaliste franco-suisse. On se souvient de votre film Home avec Isabelle Huppert ou plus récemment La Ligne avec Valeria Bruni-Tedeschi. La revanche des 50 ans ou plus, c'est ce qu'on pouvait lire dans plusieurs journaux lors de la Mostra de Venise ou du Festival de Zurich. C'est vrai, les actrices de plus de 50 ans sont à la mode désormais ?
Non, je pense pas. Non, je pense qu'on pourra vraiment parler de revanche contre le nombre de rôles principaux attribués à des femmes de plus de 50 ans sera égal ou supérieur à ceux de leurs collègues masculins du même âge, ce qui n'est pas encore près d'arriver malheureusement.
Les festivals ne sont pas le reflet de ce qui se passe dans les coulisses du cinéma, c'est ça ?
Non, je pense que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. D'ailleurs, si on le remarque, si la presse s'en empare, c'est que c'est exceptionnel, ce qui ne devrait pas, au fond. Quand vous voyez un tapis rouge de grands festivals avec des acteurs, vous ne vous dites pas « Ah, il y a tel acteur ou tel acteur ou tel acteur de 50 ans, blanc ». Voilà, vous ne faites pas la réflexion. Donc, c'est bien qu'il y ait un problème si tout à coup, la presse s'empare d'un tel sujet. Ça ne devrait pas, en fait.
Restez avec nous, Ursula Meyer. Nous avons une urgence route. On revient vers vous tout de suite.
Infotrafic RTS.
Un véhicule roule toujours à contresens sur l'autoroute A3 Zurich-Coire entre l'échangeur de Niederrurnen et Wallenstadt. Quelle que soit votre direction, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Ursula Meyer, vous êtes toujours avec nous, réalisatrice franco-suisse. On parle des femmes de 50 ans ou plus au cinéma. Vous disiez, oh ben, c'est pas réellement ce qui se passe dans les coulisses du cinéma. Elles ne sont pas vraiment visibles. C'est vrai, en matière de représentation, l'association Actrices et Acteurs de France Associés recensait 9% de rôles attribués à des comédiennes de plus de 50 ans en 2023. Et ce chiffre a stagné ces 10 dernières années. Comment on explique ce statu quo ? C'est quoi la jeunesse fait vendre, cultive les fantasmes ?
Non, et en plus, je tiens à préciser que ce pourcentage est encore plus bas au niveau du cinéma international, quoi. Parce qu'il y a une étude du journaliste de l'Université Caroline du Sud qui dit que 3% des films qui mettaient en scène des femmes de plus de 45 ans dans des rôles principaux, c'est 10% de moins qu'en 2022, quoi. Et en plus, elles sont toujours cantonnées dans des rôles de mère ou de grand-mère, enfin voilà, alors que les hommes ont des rôles plus exotiques ou de rôles de pouvoir ou autres. Non, je pense que cette sous-visibilité, enfin, au fond, fond, elle est à l'image du reste de la société. Et pourquoi le cinéma échapperait à cette sous-représentation des femmes, et qui plus est des femmes d'au-dessus de 50 ans, quoi. Pourquoi le cinéma ne serait pas comme le reste, au fond, quoi.
Et vous?
D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que dans la société, quand une femme prend la direction d'un poste important, je parle de n'importe quel métier, on s'en réjouit, mais en fait, visiblement, c'est plutôt le signe que ce poste et cette fonction n'intéressent plus les hommes, quoi. Donc, c'est aussi intéressant, ça.
Et vous-même, dans votre travail, Ursula Meyer, dans l'écriture de vos scénarios, est-ce que c'est une volonté assumée que de donner une place à ces actrices?
Non, je crois que quand on est cinéaste, c'est le désir, quoi. C'est le désir qui est à l'origine d'un film. C'est vrai que j'ai écrit en pensant à Isabelle Huppert mon premier film Home, immense actrice. Ensuite, j'ai pensé à Fanny Ardant, j'ai pensé à Valéria Bruni Tedeschi, voilà, qui sont des femmes de plus de 50 ans et qui sont des actrices exceptionnelles. Et au niveau international aussi, je trouve que c'est des femmes aujourd'hui, Julianne Moore, Cate Blanchett dans Dantar, par exemple, qu'on a vu récemment. Enfin, c'est des actrices qui ont un charisme, une force, une puissance qui traversent l'écran. Enfin, c'est des femmes assez exceptionnelles, des actrices de très très haut vol. Enfin, oui, c'est des femmes incroyables quand même, je trouve, ouais.
Et vous, que vous mettez en scène et que vous visibilisez aussi, vous y participez, même si c'est pas forcément affiché, Ursula Meyer, réalisatrice, cinéaste. Merci pour ce regard sur l'industrie du cinéma et la place des femmes. Une très bonne soirée à vous.
Merci, au revoir.
Zoom dans les méandres urbains à présent. Prenez une ville, Vevey par exemple, au bord du lac Léman. Imaginez maintenant vous balader dans ces rues, y voir les moindres détails sans pour autant y mettre les pieds. Nos invités ont développé une technologie capable de modéliser les espaces de façon ultra réaliste, comme si on y était. On appelle cela des jumeaux numériques, des maquettes virtuelles qui nous enseignent aussi sur les enjeux de demain. Romain Kirchhoff et Théo Banelzi, bonsoir.
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 Vous êtes les deux cofondateurs de l'entreprise Usufly dont il est question. La commune de Vevey, c'est un exemple hein, de ce que vous proposez comme service. Vous l'avez fait, modéliser cette commune, vous en avez fait d'autres. Alors pour bien comprendre, votre société Usufly, c'est un peu un Google Earth mais en mieux, Théo Benazi?
Tout à fait. La spécialité de Usufly, c'est de produire, de créer ces jumeaux numériques, essentiellement à partir de prises d'images aériennes. Donc, on réalise des campagnes de prise de vue via des drones, via des hélicoptères ou des avions à haute altitude. On cartographie ces espaces en 3D et après, à partir d'algorithmes spécifiques, on reconstruit en 3D ces villes et qu'on peut mettre au service après de beaucoup d'industries. Et donc aujourd'hui, Usufly se spécialise dans la distribution de ces jumeaux numériques pour les entités publiques et également pour les développeurs immobiliers.
Mais ça veut dire que si je prends mon petit bonhomme là de Google Earth et puis que je mets dans une rue de la ville de Vevey par exemple, vous, votre modèle montre des détails beaucoup plus précis?
Oui, en effet, on intervient à échelle plus réduite qu'un Google aujourd'hui, donc on a la chance de voler sur des territoires plus réduits et donc on arrive à réaliser des jumeaux numériques de l'ordre de 5 à 10 fois plus précis. Donc on arrive à obtenir des détails qui sont pas très importants pour monsieur tout le monde, mais qui par contre vont le devenir pour tous les professionnels du développement territorial. Donc ça va débloquer tout un tas de nouveaux usages dans l'inspection, dans la communication, dans l'aide à la décision. Donc il y a énormément de use case, enfin
d'utilisation possible par les administrations ces logiciels, par
exactement.
Exemple. Et combien de drones, pour avoir un peu un ordre d'idée, pour cartographier, modéliser la ville de Vevey?
Bah, il suffit de 2 drones, une journée d'acquisition, 3 personnes sur le terrain, et on arrive à numériser avec un degré de résolution de l'ordre du centimètre tout un territoire sur l'espace d'une journée.
Romain Kirchhoff, au-delà de l'aspect ludique, puisque je compare avec Google Earth, où on peut voir les lieux sous toutes les coutures, cette précision visuelle, c'est aussi la possibilité de faire passer des projets.
Exactement. Un des buts principaux de ce jumeau numérique, c'est d'y insérer les futurs projets de demain. Et on s'est intéressé à quel serait le cas d'usage pour cette technologie, et on s'est rendu compte que l'urbanisme est un cas idéal. Parce qu'aujourd'hui, les plans, on les présente, enfin les futurs projets, on les présente avec des plans et des images de synthèse. Et certaines personnes aussi ne font plus confiance à ces images de synthèse. Et aujourd'hui, d'avoir cette capacité de se mettre depuis son balcon, depuis son jardin, depuis la route qu'on utilise tous les jours et de voir le futur projet, et qu'on ne peut pas tricher sur les volumétries, on utilise vraiment le design 3D de l'architecte qu'on vient intégrer dans cette modélisation 3D, c'est quelque chose qui plaît, qui crée la confiance pour aider l'acceptation ou au au minimum itérer le projet en fonction des besoins locaux.
Donc moins d'opposition de la part de nos voisins, par exemple, c'est ça ?
Moins d'opposition, ou alors de traiter les oppositions, notamment liées à la visibilité de l'impact visuel du projet.
Et une fois qu'on parle de ça avec des communes, quelles sont leurs réactions, Romain Kirchhoff ? Elles sont plutôt intéressées par vos logiciels, par vos services ?
C'est intéressant. C'est au début, on nous a dit, ça peut devenir un gadget. On ne sait pas vraiment. On a déjà les guichets cartographiques 2D, etc. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, on nous dit, à la police des constructions, il y a deux écrans, il y a la boîte mail et il y a la plateforme web qu'on appelle le Ouzouverse, où les gens l'utilisent quotidiennement pour visualiser et valider les permis de construire de manière quotidienne. Mmh. Et on découvre aussi plein de cas d'usage, comme le disait Théo, où aujourd'hui, on nous dit, il y a même les policiers, les pompiers, avant d'aller sur une intervention sur le terrain, de mesurer des distances. Est-ce que le camion peut passer? Quelle est la hauteur d'échelle pour accéder à la toiture, etc.
Mais justement, Théo Benazi, une fois qu'on dispose de ces maquettes 3D ultra réalistes, on peut imaginer simuler des événements. On pense par exemple aux inondations qui ont eu lieu en France et qui ont fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Lyon complètement noyée. On peut voir comment une ville s'adapte à ce type d'événement avec vos maquettes.
Oui, justement, ça s'encadre. Donc, les données qu'on produit s'encadrent dans une thématique qu'on appelle le SIG, donc le système d'information géographique. Et on a des logiciels spécifiques de simulation qui permettent, après coup, ou même a priori, en amont des événements, de simuler tout un tas de risques environnementaux. Et après coup, on peut également réaliser de la cartographie d'urgence pour mettre en avant tous les sinistres qui ont été mis en avant sur un territoire.
Et ça, c'est quelque chose qui va arriver dans les projets que vous êtes en train de développer ou vous le faites déjà ?
Alors, on réalise en amont sur les risques environnementaux, sur les simulations d'inondations. Pour ce qui est des séismes, en général, c'est de la cartographie d'urgence qu'on n'a pas pu le faire, on n'a pas pu le réaliser en Suisse, mais il y a beaucoup de nos partenaires à l'étranger, dans les pays plus touchés, qui réalisent via cette technologie ce type de constat.
Eh bien, à voir ce que ça va devenir, Zufly, entreprise spécialisée dans la modélisation 3D, qui répond aux logiques du marché, hein, aux besoins. Romain Kirchhoff, Théo Benazi, cofondateur de cette start-up entreprise, merci pour vos explications. Une très bonne soirée à vous.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Et on passe à la route.
Infotrafic RTS.
Pour vous dire qu'un véhicule roule toujours à contresens sur l'autoroute A3 Zurich-Coire entre l'échangeur de Niederrürnen et Wallenstadt, quelle que soit votre direction, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. À 18h47, on prend des nouvelles du monde francophone. C'est l'accent des autres avec Olivier Nederland.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Et voici donc l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics. On va commencer aujourd'hui en parlant du trafic de drogue, le deal dans les rues. Il se propage visiblement dans les villes en Suisse comme dans d'autres capitales européennes, Xavier Alonso.
Après Genève et Lausanne, des villes plus petites comme Yverdon et Vevey tirent la sonnette d'alarme. Elles dénoncent une situation hors de contrôle.
Et nous entendrons dans un instant le témoignage d'un dealer. Du jamais vu ou presque cette semaine en France, des pluies diluviennes ont touché le centre-est et le sud-est du pays. Les inondations ont été dévastatrices. Nous serons entre Lyon et Saint-Étienne. En France encore, le militant anti-occidental Kémy Séba, un moment en garde à vue à Paris cette semaine, Nicolas Sûr.
Originaire du Bénin, déchu en juillet de sa nationalité française, il a été interrogé dans le cadre d'une enquête pour intelligence avec une puissance étrangère et finalement relâché.
Ce coup de froid aussi entre le Canada et l'Inde, Nadi Mubarak, Ottawa expulse 6 diplomates indiens dans le cadre d'enquêtes criminelles.
Oui, et l'Inde a vite répliqué en ordonnant à des représentants canadiens de rentrer au pays.
Enfin, c'est une première en Belgique. Un parti d'extrême droite va diriger une commune. C'est à Ninove. Le parti extrémiste flamand Vlaams Belang s'est imposé lors des élections communales la semaine dernière, Jacques Kremers.
Oui, une majorité absolue pour la liste Forza Ninove, une ville de 40 000 habitants située en Flandre, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles. La bourgmestre libérale sortante redoute un programme basé sur un traitement inégal des habitants.
Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans l'accent des autres. Le deal de rue au centre de l'actualité depuis plusieurs semaines, donc en Suisse romande, dans de nombreuses localités, la situation serait même hors de contrôle tant les dealers sont nombreux. Alors Xavier, à la radio-télévision suisse, eh bien, vous leur avez donné la parole.
On a beaucoup entendu sur notre antenne les habitants exaspérés, les autorités impuissantes, la police sous pression, les consommateurs aussi. Alors que les scènes de consommation se multiplient, nous avons été à la rencontre des dealers. Inu a la vingtaine, il vit dans la rue. C'est une de ces présences qu'on croise dans le quartier de l'usine à Genève.
C'est pour survivre, il y en a beaucoup parmi nous qui ne peuvent même pas manger. Alors quand vous trouvez quelqu'un qui vous demande certaines choses, même si à la base vous n'êtes pas dealer de drogue, vous partez et vous cherchez quelqu'un qui sait où la trouver. Vous allez et vous donnez à cette personne. Comme ça, vous avez un peu d'argent pour manger, pour prendre votre dîner et tout ça, juste pour prendre soin de vous. Oui, il y a des gens qui ont de l'argent pour prendre de la drogue. Moi, je n'ai même pas d'argent pour acheter de la drogue.
La colère et les peurs de certains voisins face aux dealers de rue, Inu les reconnaît. Il sait que leur présence est source de nuisance. Il le répète, le deal n'a jamais été un choix, mais une nécessité.
Alors, comment ces dealers envisagent-ils de sortir de cet engrenage du trafic ?
Pour Inu, il n'y a qu'une seule solution, régulariser. Car en Suisse, les vendeurs sont avant tout des déboutés de l'asile, des personnes sans statut légal. Et Inu l'assure, il n'est pas un délinquant.
Si j'ai des papiers, je n'irai pas dans la rue pour vendre de la drogue. Je ne suis pas stupide, je sais ça. Je souffre pour ça, pour avoir des documents.
Nous vivons comme un prisonnier.
Pourquoi je vendrais de la drogue sinon ? Vous savez, nous vivons comme des prisonniers ici. Vous savez, il y a des gens handicapés qui ne sont pas capables de marcher. Ne pas donner de papier, c'est pareil. Que voulez-vous qu'on fasse ? C'est une forme de handicap.
Être régularisé, travailler, contribuer financièrement à la société, c'est l'espoir d'Inu et c'est la raison qui l'a poussé à raconter son histoire. En attendant, les villes suisses multiplient les mesures en vain. La problématique est devenue nationale. Ainsi, des élus aux chambres fédérales enjoignent le gouvernement suisse d'agir pour mettre un terme au trafic de drogue dans les villes.
Des intempéries sans précédent ou presque ces derniers jours en France, plus de 2300 interventions ont permis de sauver des vies, c'est ce qu'annonce le Premier ministre. Pour Michel Barnier, ça fait 40 ans que le pays n'avait pas connu un épisode aussi violent. Au plus fort des intempéries, Météo France a placé 6 départements en vigilance rouge, soit le plus haut niveau d'alerte. Des pluies véritablement exceptionnelles, notamment en Ardèche. Dans la Loire, l'autoroute entre Lyon et Saint-Étienne, mais aussi la ligne de train ont été coupées. De nombreux sinistrés ont dû passer une nuit dans des gymnases. C'est le cas de deux jeunes que Julien Frénois a rencontrés à la Grand-Croix, dans la vallée du Gier.
Dans une salle qui accueille les sinistrés, je rencontre Habib et Adam, 14 ans. Les jeunes sont trempés de la tête aux pieds. Sur le chemin pour rentrer chez eux, ils s'arrêtent pour manger une pizza et c'est là que l'eau les a surpris.
Et ça a commencé à tous s'inonder. Du coup, les deux chefs qui travaillaient là-bas, ils ont commencé à bloquer avec des panneaux, tout ce qu'ils pouvaient, mais ça rentrait quand même. Du coup, on a dû monter sur les cuisinières. C'était inondé quasi jusqu'au plafond. Et les pompiers sont venus nous prendre. Ils nous ont jeté une échelle.
Pour son copain Habib, c'était un grand moment de panique.
Moi, j'étais en stress au début parce que ça faisait peur. Elle est montée à peu près jusqu'au mon ventre. Et je suis tombée dans l'eau. En fait, moi, j'ai cru que j'allais me noyer et et ne pas monter dans leur camion. Mais à la fin, on a réussi, j'étais très heureux.
Les pompiers ont pu évacuer toutes les personnes dans le restaurant. Les deux jeunes qui habitent la commune ont ensuite passé plusieurs heures avec des bénévoles. Au chaud et avec de nouveaux vêtements, quand les routes étaient plus praticables, leurs parents sont venus les récupérer.
Julien Frénois pour France Bleu, Saint-Étienne, Loire.
L'accent des autres.
Il a été interpellé lundi dernier à Paris, le militant béninois antioxydant Kémi Séba a passé 48 heures en garde à vue avant d'être relâché, sans poursuite à ce stade, Nicolas.
Connu pour la virulence de ses discours anti-français sur les réseaux sociaux, Kémi Séba, qui est né et a grandi en France, a été déchu de sa nationalité cet été. Il était à Paris avec un passeport diplomatique nigérien quand il a été interpellé. Selon son avocat, il a été interrogé à la DGSI, le renseignement intérieur, dans le cadre d'une enquête pour intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des actes d'agression contre la France. Il a finalement été remis en liberté, mais le parquet annonce que l'enquête continue.
Alors Kémi Séba, c'est une personnalité très controversé, Nicolas.
Oui, il est l'ancien leader de la tribu K, un groupuscule qui revendiquait son antisémitisme et prônait la séparation entre noir et blanc avant d'être dissous par le gouvernement. Il a été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale. Aujourd'hui à la tête du groupe Urgence panafricaniste, il a organisé plusieurs manifestations hostiles aux Francs CFA en Afrique, au cours desquelles il a été régulièrement interpellé puis expulsé. En pleine crise entre le Niger et la France, il vient d'être nommé conseiller spécial du chef de la junte au pouvoir à Niamey. Il s'est aussi rapproché des réseaux de propagande pro-russe en Afrique. L'an dernier, le magazine Jeune Afrique détaillait ses liens avec Evgeny Prigogine, défunt chef du groupe paramilitaire Wagner, qui lui aurait permis, selon JIA, de récolter plus de 400 000 dollars.
Ce conflit à présent entre le Canada et l'Inde, un conflit qui en réalité continue de s'envenimer dans la foulée d'une enquête de la police canadienne sur l'assassinat d'un militant sikh à Vancouver. C'était l'année dernière, Nadi.
Tout à fait. Cette enquête a permis de mettre au jour une campagne de répression vraisemblablement plus vaste envers des séparatistes sikhs au Canada. La gendarmerie royale du Canada a annoncé plus tôt cette semaine qu'elle détient la preuve que New Delhi a orchestré des crimes en sol canadien. Selon des sources citées par la CBC, des diplomates indiens sont directement impliqués dans des activités clandestines et le recrutement d'agents au pays. Et puis l'écoute électronique menée par la GRC a permis d'établir des liens assez clairs entre des membres influents du gouvernement indien et l'assassinat du leader sikh Hardeep Singh Nijjar l'an dernier en Colombie-Britannique. Voici Mike Duhem de la GRC.
Je trouve ça très préoccupant, je trouve ça alarmant, je trouve ça même insultant que les gens se donnent ce droit-là de venir faire les actes d'homicide, d'extorsion, d'harcèlement, d'influence en sol canadien.
Ottawa a donc immédiatement expulsé 6 diplomates indiens qui seraient liés à cette affaire parce qu'ils refusaient de coopérer avec la police.
Alors après ces expulsions, comment a réagi l'Inde?
Alors New Delhi a décidé de riposter en forçant des diplomates canadiens à quitter son territoire. L'Inde qualifie aussi de désinvolte les accusations du Canada. Le gouvernement indien dit que le premier ministre Justin Trudeau portera tout le blâme de la détérioration des relations entre l'Inde et le Canada. De son côté, Justin Trudeau explique avoir demandé la collaboration du gouvernement de Narendra Modi dans cette affaire, mais sans succès.
Je crois que l'Inde a fait une erreur monumentale en choisissant d'utiliser leurs diplomates et le crime organisé pour attaquer les Canadiens.
Entre-temps, la Grande-Bretagne et les États-Unis estiment que l'Inde devrait coopérer à l'enquête que mène le Canada.
Alors à quoi peut-on s'attendre maintenant, Nadi?
Eh bien, l'expulsion de 6 diplomates indiens pourrait n'être que le début, puisque le réseau d'agents indiens infiltrés au Canada serait toujours bien en place, quoique plus discret dans les derniers jours en raison des risques d'arrestation. Dans tous les cas, le Canada assure qu'il va maintenir ses liens commerciaux et économiques avec l'Inde.
On va se quitter avec cette première en Belgique. Une commune sera bientôt dirigée par l'extrême droite. Ça se passe à Ninove en Flandre, où le parti extrémiste Vlaams Belang a empoché la majorité absolue lors des élections du week-end dernier, Jacques.
Avec 18 élus sur 35 sièges, la liste emmenée par Guy Dazeleer pourra gouverner seule la commune de Ninove pour les 6 prochaines années. Début décembre, il deviendra normalement le premier bourgmestre d'extrême droite en Belgique. Normalement, car une enquête est ouverte sur une possible fraude électorale aux procurations. Ninove, c'est une commune de Flandre orientale située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Bruxelles, 40 000 habitants, dont 24% d'origine étrangère, un peu moins que pour l'ensemble de la région flamande. La bourgmestre sortante, Tania De Jong, libérale, est donc rejetée dans l'opposition. Elle craint que la future politique dresse les habitants les uns contre les autres.
Le Vlaams Belang a beaucoup soutenu Dazeleer. Lui est parlementaire depuis 20 ans, ultra populaire. Il a mis le focus sur Ninove. Je ne peux pas me retrouver dans son programme basé sur un traitement inégal des gens. Pour moi, l'égalité est essentielle. Si on polarise certains groupes, alors on ne peut pas être le bourgmestre de tous les habitants de Ninove.
Voilà, et donc la gestion de la commune de Ninove sera évidemment scrutée de très près. Est-ce qu'on sait déjà, Jacques, quelles actions seront mises en œuvre par le Vlaams Belang?
Eh bien, par exemple, dans le programme de 72 pages, il est notamment prévu de stopper vigoureusement ce qui est défini comme l'islamisation et la francisation de la commune. Ainsi, il faudra connaître le néerlandais pour accéder à un logement social, une aide du CPAS ou tenir tenir un stand sur un marché. D'autres communes pourraient également être gouvernées, cette fois par des coalitions associant l'extrême droite. C'est le cas à Middelkerk et Denderleuve, en Flandre toujours, à condition de briser le cordon sanitaire autour du Vlaams Belang, ce qui là aussi constituerait une première.
Et on notera encore que l'abstention lors de ces élections communales de la semaine dernière a battu de nouveaux records en Belgique. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure avec, bien sûr, les médias francophones publics. À très bientôt.
Et côté météo, demain, du soleil de manière générale avec des voiles de nuages élevés, des bancs de brouillard le matin sur le plateau, maximum 16 degrés. Et c'est la fin de ce forum. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Après le journal de 19h, ce sera Sport Première avec la rencontre Sion-Servette, tant attendue, départ du match à 20h30. Merci à Antoine Weissenbach et Jean Berset à la technique et Virginie Mater à la rédaction en chef. Une très bonne soirée. Il est bientôt 19h sur la Première.